À l'égard des petits-enfants, je retrouve les tentations que j'éprouvais face aux enfants. Le naïf espoir de leur épargner la souffrance et le mal. Je sais que nous ne modifierons pas les données de leur caractère, mais nous pourrons développer un certain nombre de réflexes, les encourager à aller de l'avant, en prenant les situations à l'endroit, les disposer à l'émerveillement, à la reconnaissance, les inviter à apprivoiser la solitude, leur faire découvrir qu'ils sont aimés et qu'ils peuvent aimer, goûter la grâce et le pardon, stimuler leur droiture comme leur curiosité intellectuelle, leur don artistique, vivre juste, vivre en plénitude plutôt que viser la réussite artificielle, le bonheur fuyant, relatif, ambigu. Aujourd'hui comme hier, je sais ce que je ne veux pas, la tristesse de n'avoir rien vécu, d'avoir été privé d'expérience par le fait d'une surprotection qui entrave en évitant risques et douleurs, mais aussi découvertes et plaisirs. Je ne voudrais pas qu'ils vivent par procuration, sans acquérir d'autonomie. Filles et garçons qui se demandent « Qui suis-je ?» sans que personne ne puisse les aider à répondre, puisque ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, on le découvre en le faisant. Je me répète cela pour m'en convaincre aujourd'hui encore, pour ne pas freiner celui qui me dit « Je prendrai bien un bain de minuit » ou celle qui s'en va, sac au dos et interrail dans la poche à travers l'Europe. Le bambin qui veut rouler sur la digue et le bout de chou d'un an qui entend bien manger tout seul en semant généreusement autour de la chaise le contenu de son assiette. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h en semaine impaire, mais aussi quand vous le décidez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. L'art d'être grand-mère, c'est ce que semble essayer de définir avec beaucoup de justesse et une forme de distance nécessaire, propre à la grand-maternité, l'écrivaine belge Colette Nys-Mazur, dont le texte d'ouverture que je viens de vous proposer, issu du livre « Célébration du quotidien » paru en 1997 aux éditions d'Esclé de Brouwer. Colette Nys-Mazur, que nous avions ici reçue, que je salue, et qui, en plus d'être grand-mère, est aussi arrière-grand-mère, selon les mêmes beaux principes. Il s'agira également d'une arrière-grand-mère aujourd'hui dont la trace est suivie par notre invitée que je suis très heureux d'accueillir au micro de Radio G, Adèle Kogic, aux plusieurs vies, auparavant animatrice en maison de retraite, devenue il y a quatre ans, vigneronne qui prend soin de ses vignes à Mauzé-sur-Loué. Bienvenue Adèle et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci Valentin.
Alors Adèle, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors, du côté maternel, c'est Hélène, et du côté paternel, Thérèse.
Et toi, comment tu les appelais ?
Alors, Hélène, c'était mamie, du coup, parce que c'était notre grand-mère la plus proche, donc on l'appelait mamie, c'était mamie Hélène, en fait. Et du côté paternel, c'était mamie Thérèse.
Donc, mamie tout court
et mamie Thérèse, exactement.
Les deux habitaient, elles habitaient où ? Elles habitaient proches ?
Alors, mamie Hélène, c'était en Anjou, donc on habitait juste à côté de chez eux, du coup, à Saint-Germain-des-Prés, en Anjou, bien sûr. Et du côté paternel, c'était en région parisienne. Donc, mamie Thérèse habitait à Mantes-la-Jolie.
D'accord, donc il y en avait une qui était très proche dans l'environnement familial, un peu tous les jours, on vivait presque ensemble.
Exactement.
Et l'autre, c'était plus pour des vacances. Donc Thérèse, tu la voyais quand ? Tu allais de temps en temps en région parisienne ?
Effectivement, c'était très ponctuel. Du coup, on allait, dans mes souvenirs, 2-3 fois par an, je pense, quelque chose comme ça. Après, elle est décédée assez tôt, puisque je crois qu'elle avait une 60aine d'années. Donc du coup, on ne l'a pas trop connue, mais du coup, c'était vraiment plus ponctuel. Et effectivement, on habitait vraiment à côté de chez mamie, donc c'était pas les mêmes...
Les mêmes rapports, ouais. La même relation qui a été tissée.
Exactement.
Et pour rester sur Thérèse, tu avais quel âge, toi, quand elle est décédée, du coup ?
Je pense que je devais avoir 15-16 ans. Je pense quelque chose comme ça.
Tu as encore des souvenirs d'elle ? Est-ce que tu peux nous dire qui elle était, à quoi elle ressemblait ?
Alors, c'était une grand-mère, moi, je trouvais plutôt chaleureuse. Quoi. Du coup, c'est vrai, quand on allait, on passait de bons moments. C'était des gens assez joviaux, quoi. Plutôt gays. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs un peu de la maison aussi, avec elle dans la cuisine. Enfin, le souvenir un peu marquant, ça va être un peu peut-être réducteur, mais elle était assise dans sa cuisine le matin et elle mangeait ses rillots, donc c'était un peu le...
Ah oui, les rillots du matin.
Les rillots du matin de mamie Thérèse, c'était un peu traditionnel, quoi.
Elle avait importé ça dans sa région parisienne.
Ben, je suppose, oui. Après, elle avait des origines polonaises. Alors, est-ce que c'était lié à ça? Je ne sais pas trop exactement, mais du coup...
Mais elle était née en Anjou aussi ou...
Non, pas du tout.
Parce que les Rios, c'est plutôt l'Anjou ou...
Oui, c'est,
ouais,
bah,
c'est ça.
Mais c'est... Est-ce qu'elle avait goûté ça en Anjou?
D'accord.
Non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment la charcuterie du matin.
Voilà. Tu l'as accompagnée dans ses petits déjeuners charcutiers?
À l'époque, non. Je ne crois pas que ça me tentait trop.
Et qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, elle avait un métier ou...
Alors, du coup, elle travaillait, il me semble, à domicile chez des gens. Enfin, je pense qu'elle faisait des ménages, ce genre de choses, chez des personnes. Voilà, ce que je me souviens pour le côté professionnel.
Du coup, cette Thérèse, est-ce qu'elle connaissait l'autre grand-mère? Elle se connaissait, les deux grand-mères?
Oui, parce que du coup, quand il y avait, par exemple, des communions, des baptêmes, des choses comme ça, souvent, les deux familles se réunissaient, quoi. Enfin, surtout, quand on groupait de notre côté. Donc, oui, elle se connaissait. Après, c'est vrai que je ne sais pas trop quelle relation elle pouvait avoir entre les deux.
Tu ne te souviens pas d'un moment où les deux réunis, les deux discutant, où il n'y a pas de photo d'elles, toutes les deux?
Non, c'est vrai que je n'ai pas trop de souvenirs, les deux ensemble, quoi. Enfin, il y a dû en avoir pourtant, mais c'est vrai que c'était assez furtif. Puis c'est vrai, quand on est enfant, on profite de la fête, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe un peu autour. Donc,
on aimerait bien revenir adulte dans ces moments-là.
De se revoir un petit peu, de revoir les scènes qui se sont jouées à cette époque-là, des choses qu'on n'a pas pu voir. Mais...
Du coup, donc, mamie Hélène, qui était beaucoup plus proche... Est-ce que tu peux aussi nous parler d'elle un petit peu, nous dire à quoi elle ressemblait déjà physiquement?
Alors, mamie Hélène, c'est plutôt une grande mamie. Enfin, elle est quand même assez grande, quoi. Donc, du coup, toujours assez bien apprêtée, mais en habit plutôt pratique, je dirais, quoi, pour après faire la cuisine ou enfin, s'occuper des tâches un peu qu'il y avait à faire à la maison. Et c'est vrai que nous, on habitait juste à côté. On avait juste le jardin à traverser pour aller chez papy et mamie qui étaient à côté. Donc, c'était un peu... C'est vrai qu'on les voyait au quotidien, quoi. C'était pas comme ceux qui vont en vacances seulement. On était vraiment tous les jours...
C'était vraiment du voisinage, quoi.
Ouais,
il fallait traverser un jardin et
c'est
on
ça.
Était...
Exactement.
C'était presque une cohabitation.
Oui, presque, ouais. C'est vrai que par moments, on était... comment dire? Du coup, quand on faisait des bêtises, il fallait être un peu discret.
Parce que les punitions, elles pouvaient venir des parents et des grands-parents aussi.
Alors, pas vraiment des punitions, mais c'est vrai qu'après, on pouvait être repris parce qu'on a, bah, voilà, on a fait les gamins, quoi. Donc,
Hélène, c'était quoi sa manière d'être, justement, avec vous? Douceur, autorité, un mélange? Comment était la relation?
Alors, je veux dire, c'est pas forcément hyper démonstratif dans la famille, quoi. C'était un peu... Enfin, oui, il n'y avait pas forcément de démonstration d'affection. Mais c'est vrai qu'après, on était bien soignés, quoi, on va dire. C'est vrai qu'après, c'est tout ce qui était repas. Alors, le côté pâtisserie dans la famille, c'est quelque chose quand même d'important. Donc, je pense que c'était un peu par ce biais-là. Enfin, voilà, plein de gâteaux, plein de plats. Enfin, en plus, on avait tous les produits du jardin, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup le souvenir de ça, en fait, d'être dans la cuisine de mamie. J'ai un souvenir de pâtes brisées parce qu'on faisait on la regardait faire et puis du coup elle faisait des pâtes brisées sucrées pour faire les gâteaux, les fonds de tarte quoi habituellement, pour la traditionnelle tarte aux pommes par exemple. Et quand on était gamine avec ma sœur, du coup le reste de pâtes, on faisait des boules et on les piquait sur un cure-dent et ça nous faisait des sucettes de pâtes brisées quoi. C'était un peu ça, c'est un souvenir assez clair que j'ai par rapport à ça.
Ah oui, le résidu merveilleux de la recette. De
c'est
la
ça.
Et c'est elle qui, c'est vous qui aviez inventé de récupérer ça ou c'est elle qui vous l'avait proposé?
Moi, j'ai pas trop de souvenirs, mais je sais qu'après, à chaque fois qu'il y avait une pâte brisée, on voulait notre sucette de pâte brisée, quoi. C'était un peu ça.
C'est presque aussi bien que de lécher le fond du plat en chocolat quand
c'est
on
ça.
Fait une mousse en chocolat. Et tu as appris avec elle à faire la cuisine Il y a eu un apprentissage, une transmission par rapport à ça ou d'autres domaines, peut-être?
Ben, on a vu pas mal de choses se faire dans la cuisine de chez mamie. Et c'est vrai qu'après, chacun en fait quelque chose ou pas. Et c'est vrai que moi, la cuisine, c'était pas trop mon attirance première, on va dire. Et après, avec du recul, je me dis, mince, c'est dommage, je pense que j'ai peut-être loupé des choses du coup sur des recettes. Donc c'est après coup, on dit, bah tiens, comment elle faisait son beurre blanc, mamie? Parce que le brochet au beurre blanc, c'est pareil, c'était quelque chose d'assez traditionnel. Et puis même, je pense, dans la famille, les oncles, les tantes et les frères et sœurs, c'est vrai que mamie, elle avait un carnet de recettes. Donc moi, je m'y étais pas spécialement intéressée à l'époque, mais après on dit bah oui, il y avait les super financiers, il y avait ci, il y avait ça, le riz au lait. Enfin voilà, c'était toutes des recettes hyper familiales qu'elle conservait dans un carnet. Donc de temps en temps, il y en a qui redemandent bah au fait, comment faisait mamie son riz au lait, comment faisait ses financiers, etc.
Elle existe encore là aujourd'hui par ses recettes, ce carnet. Il est où ce carnet? Quelqu'un le possède?
Elle existe encore tout court en fait, mais elle va sur ses 102 ans. Donc c'est vrai qu'après, ça fait déjà un bel âge quoi.
Ah donc Hélène. Hélène, ouais. Elle vit où maintenant aujourd'hui? Elle est où?
Alors elle est toujours dans sa maison.
D'accord.
Parce que mon grand-père est décédé, il avait 90 ans. Chez lui, donc à la Croix, toujours à Saint-Germain-des-Prés. Et ma grand-mère est restée sur place. Et comme avec tous les enfants, ils ont réussi à prendre le relais pour qu'elle puisse rester toujours chez elle. Donc là, après, elle est, comment dire, elle a toute la mémoire. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va bien nous reconnaître. On est nombreux parce qu'elle a 8 enfants et donc on est plus de 25 petits-enfants. Enfin voilà, ça fait une grande famille, plus les arrières et les arrières-arrières, pas encore, mais...
Elle est grand-mère et arrière-grand-mère,
ouais,
forcément.
Ça, c'est sûr.
On est sur le thème de l'arrière-grand-maternité aujourd'hui.
C'est ça, c'est vraiment les grands âges, comme on dit. Et par contre, c'est vrai qu'après, elle dort plus maintenant. Enfin, voilà, elle est un peu plus en période, un peu plus... je ne sais pas comment dire ça, mais... elle regarde toujours ce qui se passe un peu autour, mais tout doucement, quoi. Enfin, vraiment, on arrive quand même sur une fin de vie, je pense, enfin à 102 ans, et puis voilà, mais elle reconnaît quand même le monde qu'il y a autour d'elle. Et puis quand il y a des gens qui arrivent, enfin voilà quoi. Donc c'est.
Il y a toujours
ce lien. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué de discuter parce que ça la fatigue beaucoup. On sent que c'est une étape de vie un peu entre deux, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais elle est toujours là, mais en même temps, on sent qu'il y a un peu de. Ça lâche aussi d'un autre côté, quoi.
Ouais, ça dépend des moments. Il y a des moments, ouais. J'imagine, de grande présence,
bah où elle est très éveillée. Et du voilà. coup, elle va bien voir ce qui se passe autour ou reconnaître. Comme c'est ma cousine qui me disait ça hier. Des fois, en fait, on est à la maison autour d'elle pendant un petit moment, mais elle va dormir, donc elle va pas voir ce qui se passe autour. Puis d'un coup, elle va se réveiller. Puis ah bah vous êtes là. Enfin voilà quoi. Donc c'est des petits morceaux comme ça de vie, de bribes qu'on saisit.
Elle est plus dans le moment où elle raconte des choses, des souvenirs.
Bah non, pas trop du coup. Enfin, là, c'est pas trop dans l'échange et la discussion. C'est
d'accord.
Vraiment plus, je pense qu'elle sent l'ambiance qu'il y a autour, mais c'est pas vraiment dans l'échange, quoi.
D'accord.
Mais le carnet de cuisine, puisque du coup on parlait de ça, il est toujours dans la cuisine.
D'accord. Donc on vient piocher des choses.
C'est ça. Donc on a plus ses conseils parce que du coup c'est vraiment trop compliqué, mais du coup on a toujours le carnet existant.
Et dans cette même maison, quoi, dans la maison.
Ouais. La maison vraiment familiale, enfin du coup qui réunit vraiment toute la famille. Donc c'est vrai que à 102 ans, c'est toujours le point central familial, quoi. C'est toujours là que toute la famille se réunit, que tout le monde se rencontre, les cousins, les oncles, les tantes, même si on habite un peu à droite, à gauche. Du coup, c'est vraiment...
Ouais, ça reste un lieu de ralliement autour de la
Exactement.
Autour de la grand-mère.
Ouais.
T'as d'autres souvenirs un peu avec elle, de ton enfance, ou dans cet espace-là, il y a des choses un petit peu marquantes peut-être en lien, à un moment donné, on va faire le lien aussi avec une arrière-grand-mère, avec ton activité de vigneronne. Voilà, comment c'est venu un peu tout ça?
Alors du coup, l'arrière-grand-mère vigneronne, c'était la mère de mon grand-père maternel. Donc c'était la belle-mère de mamie, en fait.
D'accord, la belle-mère d'Hélène.
Voilà, c'était
okay,
la belle-mère d'Hélène, qui a vécu jusqu'à 100 ans aussi. Donc je ne sais pas si c'est une famille, mais en plus à l'époque, donc on l'appelait grand-mère Jeannot, l'arrière-grand-mère, parce qu'on l'appelait comme nos parents l'appelaient en fait. Quoi.
D'accord.
C'était grand-mère Jeannot pour
c'était
nous.
C'était leur grand-mère, donc c'était la vôtre. Ouais.
Quand on était enfant, graduellement, il y avait maman, mamie et grand-mère. Quoi. Du coup, même si c'était l'arrière-grand-mère, c'était un peu c'était ça.
Cette arrière-grand-mère, donc, oui. Qui était vigneronne a priori, et toi tu l'as connue jusqu'à quel âge? Est-ce que tu savais qu'elle faisait ça? Comment elle est arrivée dans ta vie?
Alors j'ai su assez tardivement qu'elle faisait ça. Je pense que je l'avais su, et comme on dit, étant enfant, des fois on oublie des choses ou c'est pas des choses qui nous marquent sur le moment, quoi.
Mais quand tu étais enfant et que tu la connaissais, qu'elle était encore vivante, évidemment elle faisait plus cette activité-là.
Non, c'est
voilà,
ça.
Ça participait à son passé.
Je l'ai connue, elle habitait à Montjean, donc c'était à côté. Donc c'est vrai qu'on allait voir grand-mère Jeannot, quoi. Du coup, comme, enfin c'était c'était la grand-mère de ma mère, donc elle allait voir sa grand-mère, quoi, comme nous, on allait voir notre mamie de l'autre côté. Et je me rappelle d'une femme donc plutôt petite, même assez petite, et avec, un fort caractère. Et je crois qu'elle est décédée en 2000, juste à l'aube des 99 ou 2000. Et je savais qu'à Montjean, donc il y a un lieu familial qui s'appelle Châteaupanne, un peu du côté de mon grand-père, du coup, où c'était sa famille qui habitait là. Ils avaient un moulin, donc ils étaient meuniers, ils avaient des vignes. Et puis je pense qu'il y avait aussi d'autres cultures, enfin peut-être des animaux et peut-être de la polyculture aussi. Et voilà, on savait surtout qu'il y avait ce moulin-là et à Châteaupanne, enfin vraiment ce lieu-là historique de famille. Mais je ne savais pas trop qu'il y avait des vignes en fait à l'époque. Et c'est après un petit peu en essayant de développer un peu ce côté-là. Moi, j'étais intéressée par le vin, la vigne, etc. Et c'est là qu'on m'a dit, bah, ton arrière-grand-mère, elle était vigneronne. Ah bon, bah, du coup, c'est un petit peu rigolo de se dire...
Qui t'a dit ça?
Eh ben, je pense que c'est ma mère qui m'a dit ça. Bah, elle faisait du vin, ton arrière-grand-mère, etc.
Ça, c'est quand tu as commencé un petit peu à t'intéresser à cette thématique-là. Ouais. Du coup, tu en discutais avec les gens de ta famille et ça a fait un écho du passé.
Parce que du coup, je crois que c'est mon oncle qui m'a dit qu'il allait tailler la vigne à l'époque aussi avec mon grand-père. Et puis, en refaisant des petits liens comme ça, mais c'était pas flagrant quand j'étais jeune, quoi, du coup.
Et alors, tu as creusé ça un peu, tu as appris d'autres choses sur quelle vigneronne elle était, comment ça se passait, il y a encore, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as appris de cette activité-là?
Je sais qu'il y avait des vignes, je sais où était le local, etc. Mais après, sur le fonctionnement, je n'ai pas trop d'informations. Et je crois que ça avait été, les vignes avaient été transmises, mais d'un autre côté de la famille. Enfin, du coup, il y avait une histoire vigneronne qui s'est prolongée, je pense, mais pas du côté Jeannot. Je crois que c'est du côté de Noyer, enfin, c'est une autre partie de la famille qui a récupéré cette activité-là. Et il n'y a plus de vignes maintenant qui appartenaient, je crois, à grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère du coup. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je revoie sur la famille Noyer, peut-être qu'eux ont des informations plus par rapport à cette activité propre-là. Mais j'ai le souvenir juste d'une tante, de ma tante Marie-Hélène, qui m'avait dit qu'une fois elle allait à Paris. Alors je sais... Ça me paraît bizarre, mais dans mes souvenirs, elle me parlait en calèche, mais ça me paraît peut-être un peu trop vieux quand même. Et en fait, en prenant, je ne sais plus par quel moyen de locomotion, mais en allant sur Paris, ma tante, elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui allait livrer du vin à Paris, et c'était le vin de ma grand-mère, en fait, du coup. Donc, il y avait des petits liens comme ça, quoi. Mais...
Et ce vin qu'elle faisait, ton arrière-grand-mère, tu as déjà vu... une trace de ça, une bouteille, une étiquette?
Alors,
non,
pas de bouteille, ouais. J'aurais bien aimé voir une bouteille ou une étiquette. La chose qui a été transmise, c'est plutôt de l'eau de vie, liée à la prune qu'ils avaient le droit de faire. En fait, à l'époque,
d'accord,
il y avait des droits. Quand les vignerons avaient un droit de... Comment on appelle ça En fait, ils avaient le droit de faire bouillir, enfin de faire de l'eau de vie avec... un pourcentage, du coup, c'était une quantité par vigneron. Donc, c'était la prune de la grand-mère, par contre. Et ça, je crois que chacun des enfants, de mes oncles et tantes et de ma mère, ont hérité d'une bouteille de prune de la grand-mère qui, apparemment, avait une bonne réputation. Donc, pas de bouteille de vin, mais une bouteille de prune.
Ça fait partie de l'héritage.
C'est ça.
Et tu parlais, pour cette arrière-grand-mère, d'un caractère fort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi tes souvenirs de ce caractère-là? Cette femme avec un grand caractère.
Je pense quelqu'un d'assez droit, je pense, assez strict aussi. Enfin, fallait que ça file droit, quoi. Je pense que c'était un peu ça, quoi. Je pense un peu autoritaire aussi. Après, moi, je suis pas allée en vacances chez elle. Enfin, on se voyait que ponctuellement. Donc, je me rappelle de sa maison à Montjean. Enfin, voilà, on allait manger des gâteaux. Enfin, on va faire boire le café pour les parents, etc. Donc, j'ai pas moi senti ça, mais je pense que dans la famille, c'est un petit peu. Un petit peu l'idée d'une une petite bonne femme avec un bon caractère.
Et qui s'est lancée aussi dans quelque chose d'assez incroyable.
En même temps, vu la vie, incroyable. Je pense, de mener de front, parce que je pense, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'elle aurait perdu son mari à la guerre, parce que je pense que mon grand-père a été orphelin de père assez tôt, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, après, il fallait mener de front la famille, les activités agricoles, quoi. Enfin, donc... je pense qu'il faut quand même assez de caractère pour tenir tout ça, quoi.
Et on a l'impression que toi aussi, tu as eu ce caractère, ce courage à un moment donné de changer de vie et de t'investir dans cette activité, de devenir vigneronne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition et puis de quelle vigneronne tu es aujourd'hui ?
Alors, je ne pense pas que j'ai le caractère. Je peux être... je me sens pas avec une force de caractère comme on peut le dire de certaines personnes qui ont vraiment un caractère comme ça, mais après je peux avoir des idées assez peut-être une volonté plutôt quoi, enfin c'est
d'accord.
Plutôt dans ce sens là quoi, j'ai envie de tester ça. Et puis en fait mon idée de devenir vigneronne, c'était aussi ayant côtoyé beaucoup de personnes âgées aussi par mon milieu d'avant. Ils me parlaient beaucoup des choses qu'ils avaient appris, mais par transmission orale en fait. C'était quasiment, là où je travaillais, c'était quasiment, on va dire, à 80% une population agricole. Et tout leur métier, tout ce qu'ils connaissaient du vivant, enfin, tout ce qu'ils connaissaient de la culture, de l'agriculture, en fait, c'était des choses qui avaient été transmises vraiment à l'oral, quoi. C'est pas des gens qui étaient allés à l'école pour apprendre leur métier. Et j'avais quand même un peu, c'est peut-être un fantasme, je sais pas, mais d'apprendre un métier pas vraiment par transmission, quoi. Dans l'idée d'apprendre des gestes ou des choses, vraiment dans ce sens-là. Et du coup, le fait, j'ai rencontré un vigneron avec qui je m'entends très bien, et c'est lui en fait qui m'apprend un peu, enfin je suis allée étudier quand même un peu les bases, etc., mais en fait vraiment c'est cette idée d'apprendre quelque chose par transmission orale sur l'expérience. Et donc ça, c'est peut-être un truc qu'on a moins maintenant, enfin je sais pas en fait, ça doit dépendre des métiers, mais vraiment de cette transmission orale sur l'agriculture, enfin les plantes, le climat, enfin voilà tout ça, toute l'expérience vécue de.
À toi, ce projet, ça avait du sens par aussi la manière d'apprendre,
oui.
De recevoir les informations, les compétences,
oui,
le savoir-faire, et tu l'as reçu comme ça de
oui.
Manière orale en étant fidèle à une tradition aussi.
Oui, c'est un peu ça. Ouais.
C'est super, c'est incroyable.
C'était un petit peu ça. Dans le fond, quoi. C'est vrai que je ne le dis pas forcément toujours, mais vraiment, moi, dans mon idée, c'était vraiment
d'apprendre.
Oui, en
tout cas, c'est
comme
c'est
ça que je le vis.
C'est quelque chose qui est important
enfin,
pour toi. Ouais.
J'aurais pas, je pense, fait la même chose si je n'avais pas rencontré ce vigneron-là qui m'a donné l'envie d'apprendre et puis qui me transmet, quoi. Enfin, du coup...
Et il y a un côté spontané aussi. C'est une rencontre, c'est des échanges,
c'est...
des conversations. Et c'est comme ça qu'est venu un petit peu
voilà.
Une matière, un savoir... T'aurais pas fait ça comme ça d'un coup en faisant une formation dans une classe, enfin ce qui est pas inintéressant
non, non, bah oui, parce
aussi
quand même
mais
des choses à apprendre
bien sûr
par, voilà,
et
mais...
c'est complémentaire mais okay.
Et puis en fait ça s'est pas fait comment dire, c'est pas que j'ai pas calculé ça, mais c'est vrai que du coup j'étais partie plutôt sur la partie caviste, enfin vente du vin en cave, etc., donc plutôt sur le conseil, sur la sommellerie, etc. Et en fait, c'est en rencontrant ce vigneron-là que ça s'est fait petit à petit, mais je n'avais pas forcément calculé. Enfin, par exemple, il y a 5 ans ou 6 ans, je ne me serais pas dit « bah tiens, tu vas être vigneronne ». Ce n'était pas forcément la première idée en tête.
Et puis aussi, c'est fidèle aussi à ton ancienne vie ou ton ancienne activité, où effectivement, tu étais au milieu de personnes âgées qui te transmettaient des choses et qui avaient l'habitude d'une tradition orale comme ça. Il y a une fidélité aussi à ça.
Je pense que c'est vraiment un peu ce lien-là quoi, qui fait que j'en suis arrivée là. Quoi. C'était vraiment... moi, j'ai entendu... C'est que je me dis, c'est des personnes, après, c'est des générations qui vont disparaître. Moi, quand j'ai commencé l'animation, j'avais 20 ans, c'était il y a 20 ans. Donc, il y a déjà une génération que j'ai pu connaître... fin 1800, début 1900, enfin, ça paraît tellement loin maintenant, mais c'est des générations du coup, qu'on ne va plus connaître. Et il y a tellement de choses qui se passent quand on écoute et quand, quand les gens nous parlent.
Oui, on ne peut pas s'empêcher de se dire, il y a le gain, il y a ce qu'on reçoit qui est précieux, mais qu'est-ce qu'on va perdre qu'on ne va pas retenir, qu'est-ce qu'on ne va pas savoir.
Il y a des choses qui vont se transmettre, mais il y a d'autres choses aussi qui vont être perdues. Donc c'est vrai que du coup, il y a...
Adèle, merci beaucoup pour cette conversation. C'est déjà l'heure de mettre fin à cette découverte de tes grands-mères. Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Hélène, de Thérèse et puis de l'arrière-grand-mère aussi. Tu peux nous rappeler son prénom ?
Marie-Adélaïde.
C'était Marie-Adélaïde,
oui,
c'est ça ?
On l'appelait grand-mère Jeannot.
Grand-mère Jeannot, voilà. Mais on n'avait pas prononcé son prénom encore. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Je laisse la parole à notre invitée, Adèle Kogic, qui va nous lire un texte de son choix.
Merci, Valentin. Alors, le texte que je vais vous lire, c'est mes oncles et tantes, enfin maman, oncle et tante, avaient fait venir un écrivain public du coup pour recueillir les mémoires de mes grands-parents. C'était il y a quelques années maintenant, je pense que c'était il y a plus de 10 ans, 10 ou 15 ans, pour garder une trace de leur vie, leur mémoire. Donc c'est toujours dans le même thème finalement de la transmission. Donc je vais vous lire une partie donc, qui correspond à la jeunesse de ma grand-mère, donc d'Hélène. Et sur la partie « Travail à la ferme familiale et les foires aux bestiaux ». Après avoir quitté l'école, j'aidais mes parents à la ferme. La lessive, la cuisine, le ménage. En plus de cela, il fallait s'occuper des bêtes. Moi, je trayais les vaches. Mon père faisait du commerce de bestiaux et participait aux foires de la région. La veille d'une foire, les gens nous livraient leurs bêtes. Ils payaient et nous buvions un coup tous ensemble. Ces jours-là, la maison se transformait en vrai café. J'étais donc souvent sur les routes avec une de mes sœurs pour livrer les bêtes sur le lieu de la foire. Nous allions au Louroux-Béconnais, à Candé, à Bécon-les-Granites ou à Angers. Tout se faisait à pied. Je me souviens surtout de la grande foire d'Ingrandes-sur-Loire, c'était tout un chantier. Je me levais vers 5h du matin, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre en route. Parfois on me disait « Dépêche-toi, ils sont sur le point d'y aller ». Nous partions de chez nous après avoir rassemblé toutes les bêtes, je devais bien les tenir car elles allaient à vive allure. Il fallait faire attention en marchant sur la route nationale, même s'il y avait peu de voitures. Une fois, je suis tombée par terre et je me suis allongée sur la route. Nous étions 3 ou 4 personnes pour conduire au moins une 50aine de bêtes, mais nous étions habitués. Mon père et mon frère avaient des blouses blanches spéciales avec des poches pour mettre leurs ciseaux et leurs portefeuilles en cuir, garnis de billets pour faire du commerce à la foire. Ils avaient aussi une petite chaîne attachée à leur gilet avec un calepin où ils notaient tout. Toutes les transactions se réglaient en liquide à l'époque. Chacun transportait ses billets sur soi en toute sécurité. Les routes étaient sûres et nous n'avons jamais connu d'agression. Une fois, j'ai même rapporté beaucoup d'argent de la foire d'Ingrandes sur mon vélo. Tout se passait de la main à la main et l'argent était conservé dans les maisons. Je me souviens des marchandages et des discussions qui pouvaient durer très longtemps. Et là, c'est Papy Jean donc, qui intervient, qui dit « Quand les deux parties se tapaient dans la main, c'était le signe que le marché était conclu. Cela avait la valeur d'un écrit et on ne pouvait plus revenir sur la décision. » Mais les commerçants n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Quelquefois, l'acheteur partait et le vendeur se demandait si son éventuel client reviendrait ou non. Finalement, l'acheteur revenait et tous deux se mettaient d'accord sur le prix de vente. Chacun coupant la poire en deux et le marché était conclu. Et Hélène reprend « Mon père et ensuite mon frère étaient chargés de ces échanges commerciaux sans être toujours d'accord. Ce n'était guère facile. Notre activité s'est poursuivie pendant la guerre. » Mon frère, qui était un commerçant né, s'occupait du négoce des bestiaux. Parfois, on envoyait les bêtes à Paris en train, depuis la gare de Chantossée. Le plus difficile, c'était d'être à l'heure. Une fois, j'ai accompagné mon père jusqu'à la Villette, c'était impressionnant. Un autre jour, je me vois encore conduire toute seule un énorme taureau. Avec une grande barre, je le tenais fermement par la tête. Mais j'ai quand même reçu des coups de pied, mais j'étais habituée. Les gens qui nous livraient les bêtes nous parlaient de leur caractère, certaines ne connaissaient que leur propriétaire. »